40 ans après sa victoire historique à Roland-Garros, Yannick Noah se raconte en exclusivité à Jacques Vendroux pour Europe 1.
Bonjour, c'est Yannick Noah sur Europe 1.
Yannick Noah, entre vous et moi, le podcast événement. Confidences, souvenirs et raquettes. Yannick Noah, entre vous et moi. Disponible dès maintenant sur toutes les plateformes d'écoute, le site et l'appli Europe 1.
Vous avez intérêt à écouter ça, c'est de la magie.
Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode de ce récit consacré à Roland-Garros, le jeune Réunionnais est devenu un prince de l'aviation en remportant de nombreux records d'altitude et de distance. Le champion des champions, comme l'appellent les journalistes, est désormais le pilote d'essai des avions Morane-Saulnier. En septembre 1913, il s'apprête à battre un nouveau record, la traversée de la Méditerranée sans escale. Épisode 2. Des records et des guerres. Le dimanche 21 septembre, Roland Garros reçoit un coup de téléphone. Son mécanicien lui annonce que le vent a tourné, il va pouvoir traverser la Méditerranée. Il en rêve depuis 2 mois. Ça y est, c'est le moment. Le lendemain, lundi 22 septembre, Roland arrive à la base d'aéronautique de Saint-Raphaël. Le grand départ sera pour le lendemain matin, au petit jour. Le 23 septembre, à 5h52, Roland Garros décolle. Il laisse les côtes varoises derrière lui, traverse la mince couche de nuages et se retrouve dans un ciel limpide. Il n'a qu'à suivre la direction donnée par sa boussole pour se repérer. Mais alors qu'il arrive près des côtes corses, un bruit métallique lui glace le sang. Des gouttes d'huile noire lui sautent à la figure. Après un instant de peur, Garros constate que son moteur tient le coup. Une pièce a sauté à l'avant de l'appareil, mais les mouvements de l'hélice génèrent une tension qui fait que tout continue à marcher. Il faut faire un choix, et vite. Se poser en Corse, ou continuer. Le moteur tourne régulièrement. Roland Garros ne parvient pas à se dire qu'il faut abandonner un record. Il ne veut pas voir son rêve se terminer à cause d'un accident technique. Et pourtant, ça lui paraît idiot de mourir dans un accident d'avion. Selon ses propres mots, c'est une mort de luxe, une mort pour l'aventure, mais c'est mourir quand même. Finalement, le goût du dépassement l'emporte. Garros poursuit sa route, la Corse est désormais loin derrière lui. Alors qu'il survole la Sardaigne, une autre panne survient. Il continue à voler, le cœur battant. Bientôt, il n'y a plus que le bleu autour de lui. Alors qu'il approche des côtes tunisiennes, il aperçoit 3 torpilleurs. Il sera récupéré par ses bateaux en cas d'accident. Roland Garros plonge en spirale pour se rapprocher des navires et échappe de justesse à un bain ridicule, ce sont ses mots. Mais encore une fois, il s'accroche et se pose finalement à 13h40 à Bizerte, en Tunisie, après 8 heures de vol. Son réservoir de carburant est presque vide, il vient de parcourir 780 km sans escale au-dessus de la mer. Garros rentre en France en héros où la presse célèbre son exploit. Dans les mois qui suivent, il continue à participer à différents meetings aériens, jusqu'à ce qu'un événement fasse basculer le destin du monde. Le 28 juin 1914, François Ferdinand d'Autriche, l'héritier de la couronne d'Autriche-Hongrie, est assassiné à Sarajevo par un nationaliste serbe. Par les Jeux d'Alliance, toute l'Europe entre en guerre dans les semaines qui suivent. D'un côté, il y a les Alliés, avec la France, le Royaume-Uni et la Russie. De l'autre, il y a la Triplice, avec l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Oubliez cette vieille légende scolaire qui dit que les Français sont partis à la guerre la fleur au fusil à l'été 1914 en pensant qu'ils seraient rentrés pour Noël. Qu'ils auraient été préparés à la revanche contre l'Allemagne dans les salles de classe par leurs instituteurs, les hussards noirs de la Troisième République, pour reprendre l'Alsace et la Lorraine perdues en 1871. Oui, la haine du Bosch est bien présente, et les plus vieux se souviennent encore de l'humiliation de la guerre de 70. Mais croyez-moi, les paysans n'ont pas envie de quitter leurs champs prêts pour la moisson, et les cols blancs des villes n'ont pas envie de porter le pantalon rouge garance et la capote gris de fer bleuté. L'uniforme bleu horizon ne viendra qu'en été 1915, quand on se sera rendu compte que ça ne sert à rien d'être beau pour mourir dans les tranchées, et que le rouge, ça se voit de loin. La Première Guerre mondiale. Personne n'avait jamais vu une telle boucherie. Pendant 2000 ans, la guerre, c'était deux groupes d'hommes qui se fonçaient dedans avec des armes de jet et des épées. Et puis, la poudre est arrivée, mais les arbalètes et les fusils n'avaient pas de très longue portée avant la fin du 19e siècle. Et puis, il y a eu les canons et les obus remplis de shrapnel qui vous déchirent le corps comme si vous étiez une motte de beurre. Alors pour résister, on s'enterre dans les tranchées. La guerre devient une attente de l'assaut meurtrier pendant des semaines, des mois, des années. Et même dans la terre, on n'est pas en sécurité. La science a permis la création d'armes inédites, les armes chimiques. Rien que leur nom évoque déjà l'asphyxie. Le chlore, l'acide cyanhydrique, le bromure de benzyle, le phosgène, et puis l'hypérite, le fameux gaz moutarde, qui vous brûle encore plusieurs heures après que vous lui ayez échappé. 7% des soldats de la Première Guerre mondiale sont morts à cause des gaz. Ça représente 1 300 000 hommes. Il faut s'envoler haut pour retrouver l'air pur. Et puis pour la première fois, la guerre n'est pas que sur Terre. Elle est aussi dans le ciel. Ça fait déjà 2 ou 3 ans que les gouvernements européens qui sentaient monter le conflit ont poussé les ingénieurs aéronautiques à réfléchir à des avions de guerre. Quand la guerre a éclaté en 1914, donc, de nombreux pilotes se sont engagés pour leur pays. C'est le cas de Roland Garros. Né dans les colonies, il n'était pas obligé de s'enrôler dans l'armée, mais il l'a fait par patriotisme. Gardez à l'esprit que tous les pilotes européens se connaissent. Ils se sont croisés dans des meetings ces dernières années. Ils se respectent comme pilotes. Mais les rivaux d'hier sont les ennemis d'aujourd'hui. En souvenir de leur amitié, ils prendront l'habitude de survoler le champ de bataille à la fin du combat pour lancer des couronnes aux pilotes morts pour leur pays. La première bataille aérienne a lieu le 5 octobre 1914 dans le ciel de Reims, près des lignes de front. C'est quasiment un duel aérien. Il faut voler au même niveau que le pilote adverse pour tirer sur lui au pistolet ou au fusil. Ce jour-là, le Français Joseph Franz et son mécanicien Louis Queneau volent à bord d'un voisin 3, un bombardier biplace de fabrication française. Ils tuent le sergent Wilhelm Schlichting et l'oberlieutenant Fritz von Zagen à bord de leur avion allemand, un Aviatik. Ces duels aériens ne sont pas très performants, mais ils se multiplient rapidement. Roland Garros intègre l'escadrille 23 surnommée MS-23 car les avions utilisés sont des Morales Saulnier. Il participe à des missions de reconnaissance et aussi à des largages de bombes. Roland et son ami Saulnier participent eux-mêmes à la création des mitrailleuses synchronisées qui tirent entre les pales des hélices désormais blindées pour résister aux ricochets accidentels des balles. On peut donc maintenant tirer des rafales de face sur les avions ennemis. En janvier 1915, le premier chasseur monoplace équipé d'une mitrailleuse est opérationnel. Après cette phase de travail avec les ingénieurs, Roland Garros est affecté à l'escadrille MS-26. Il remporte plusieurs batailles dans les airs. Le voilà détenteur d'un nouveau record. Il est le premier pilote victorieux dans un combat aérien à bord d'un monoplace. Mais cette série de victoires ne va pas durer. Le 18 avril 1915, Roland Garros survole la Belgique. Il est touché par des soldats allemands au sol qui possèdent désormais des canons anti-aériens. Il atterrit en urgence à Ulst, dans les Flandres. Son premier réflexe est de chercher à mettre le feu à son avion pour que les Allemands ne puissent pas s'emparer de lui et étudier son système de mitrailleuse qui tire à travers les hélices. Mais il n'en a pas le temps. Il est arrêté avant. Les ingénieurs allemands vont donc confisquer son invention et la perfectionner. Sur les avions allemands de type Fokker E3, il n'y a plus de problème de ricochet. Ce sont maintenant les ennemis des Français qui dominent les airs pendant plus d'un an. En tant que célébrité, Roland Garros est très surveillé. Il est déplacé dans plusieurs camps allemands et polonais. Après plusieurs tentatives avortées, l'aviateur parvient enfin à s'échapper en février 1918. Cette fois, il a dérobé un uniforme allemand pour passer inaperçu. Après avoir regagné la France, Roland Garros retrouve sa place de pilote dans l'aviation militaire. Georges Clemenceau, alors président du Conseil des ministres, aurait préféré qu'il reste à l'état-major, mais le champion des champions est déterminé à se battre. Il a seulement 29 ans, mais il est très affaibli physiquement après 3 années de mauvais traitements en détention. Il est devenu myope, mais il le cache. Il ne met discrètement ses lunettes de vue qu'une fois installé dans son avion. L'état de sa vue n'est pas son seul problème. En 3 ans, la technologie des avions a beaucoup évolué. La remise à niveau est difficile. Son escadrille vole maintenant sur des SPAD 13, des avions de chasse pouvant atteindre la vitesse de 220 km/h et l'altitude de 6550 mètres. On est très loin des records de Roland-Garros avant la guerre. Mais l'aviateur persévère. Il est finalement autorisé à repartir au combat. Nous sommes le 5 octobre 1918. Demain, Roland-Garros aura 30 ans. Il monte dans son avion et décolle dans le ciel des Ardennes pour en découdre avec les Allemands. Mais ce jour-là, un Fokker des 7 de l'armée allemande fonce sur lui et ouvre le feu. L'avion de Roland-Garros est touché, probablement au niveau du réservoir. Il explose. Le champion des champions est enterré dans un carré militaire du cimetière de Vouziers dans les Ardennes. 5 semaines plus tard, le 11 novembre 1918, l'armistice est signé. La guerre est terminée. Mais quel rapport entre Roland-Garros et le tennis, me direz-vous ? Eh bien aucun. Enfin, le lien n'est pas évident. En 1927, les Français remportent la Coupe Davis. Ils devront donc accueillir la finale l'année suivante. Le petit monde du sport parisien est en ébullition. Il faut construire un stade assez grand et moderne pour accueillir un tel événement. Le Stade français, le Racing Club et la ville de Paris se mettent d'accord pour que le nouveau stade soit construit sur le terrain de l'ancien stade Jean Bouin situé près de la Porte d'Auteuil, à la lisière du Bois de Boulogne. Émile Le Sieur, le président du Stade français, a néanmoins une exigence. Le nom de ce nouveau complexe sportif devra porter le nom de son ami héros de guerre, Roland Garros. Le 11 mai 1928, le stade Roland-Garros devient le temple français du tennis sur terre battue. Poussière ocre, balle jaune, cris des athlètes qui donnent un coup dans la raquette. Tout ça ne devrait pas faire oublier que Roland-Garros est mort pour la France. Alors peu importe l'issue des matchs, parce que la France a déjà gagné la guerre en 1918. C'est la fin de ce récit consacré à Roland-Garros. Je vous remercie de l'avoir écouté. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio, et comme dans l'armée de l'air, c'est un travail d'équipe. À la production, le général de brigade aérienne Bichler. À la réalisation, le colonel Ibrahim. À la direction artistique, le commandant Tarot et la première classe Imbert. À la composition des musiques additionnelles, le commandant Tarot et l'adjudant Guidis. À la communication et à la diffusion, le sergent-chef De Croix et le sergent Bertil. Au texte et à la voix, votre humble serviteur, pilote des lignes. À bientôt au cœur de l'histoire.